J'étais assis sur un banc, 5 minutes avec moi, perdu dans mes pensées qui me parlaient sans voix. Dans un parc un peu désert, sous un ciel sans couleur, un moment un peu d'air, dans une bulle sans humeur. Un vieil homme approcha, fermant ainsi cette parenthèse.
Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Il me dit cette phrase sans astuce.
Quel dommage
que les gens ne se parlent pas plus. Je ne me croyais moi. J'ai un peu l'expérience. Je ne vous connais pas. Je m'assois près de vous. Si les gens se parlaient, les choses auraient un sens. Je vous parlais pour autant.
Chers auditeurs de Tranche de Vie, Agnès est une jeune femme active, engagée et qui exerce un métier rare dont elle a accepté de nous parler. Je la remercie d'avoir accepté notre invitation et je vais tout de suite lui demander de présenter le métier qu'elle exerce. Agnès, bonjour. Quel est votre métier? Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Bonjour. Alors, mon métier pourrait s'appeler conseillère en mobilité professionnelle, mais on le connaît aussi plus souvent sous le métier de conseiller en orientation et insertion professionnelle, puisque j'accompagne des gens qui sont en questionnement sur leur devenir professionnel, qu'ils soient salariés, qu'ils soient demandeurs d'emploi, qu'ils soient jeunes, voire très jeunes, puisque je fais aussi de l'accompagnement à l'orientation scolaire pour des jeunes qui peuvent avoir de 15 à 20, 22, 23 ans. Et je les aide à faire le point sur leurs envies, leurs besoins, leurs aspirations, leurs possibilités pour essayer de trouver ou de retrouver une voie professionnelle qui pourrait leur permettre de s'épanouir par la suite. Voilà.
Alors, ça, c'est un métier que vous exercez depuis longtemps ?
Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que j'exerce ce métier-là. Depuis que je suis en Dordogne, en fait, puisque je suis en Dordogne depuis 13 ans maintenant. J'ai d'abord travaillé dans l'insertion professionnelle et puis ensuite dans le champ de l'orientation depuis une dizaine d'années.
Alors, votre métier, ça fait partie de ces nouveaux métiers comme, coach d'entreprise, par exemple, qui accorde beaucoup plus d'importance maintenant à la psychologie des gens, qui leur donne la possibilité de s'exprimer pour rechercher un petit peu une solution à leurs difficultés, c'est ça ?
Alors, coach, oui, alors c'est un mot qui est devenu très à la mode. Je ne me considère pas comme ça, même si certains pourraient faire le parallèle. En tous les cas, oui, c'est un métier qui est centré sur la personne, qui est là pour les accompagner, les aider à se poser des questions, à prendre du recul sur leur situation et sur leur passé, pour pouvoir faire un choix qui soit, alors moi je dis souvent éclairé, en tous les cas, qui soit objectif, fait en connaissance de cause, et surtout qui tire parti au maximum de ce qu'ils ont pu vivre avant, de manière à s'orienter vers quelque chose qui va répondre à ce qu'ils sont, à ce dont ils ont besoin, à ce qu'ils aiment, à ce qui est possible aussi, parce qu'il ne s'agit pas non plus de construire un projet utopique. Du coaching, oui, on pourrait faire un petit parallèle.
Comment est-ce qu'on arrive à faire ce métier ? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier et quelle formation avez-vous reçue ? Qu'est-ce qui vous a orienté vers cette activité ?
Alors, je vais repartir au début. Quand j'ai eu mon bac, donc il y a quelques années maintenant, je me suis tournée vers des études de psychologie parce que je voulais aider les gens. Ça a toujours été, on va dire, mon moteur. Mais dès le départ, je me suis dit, quitte à aider les gens, autant le faire là où ils passent du temps et donc au travail. Et donc ma première idée était d'être psychologue d'entreprise, sachant pas trop à 18 ans ce que ça voulait dire. Mais en tous les cas, je voulais aider les gens en milieu professionnel. Donc j'ai commencé des études de psychologie et puis assez vite, je me suis rendu compte que c'était un métier qui offrait assez peu de débouchés et que je risquais de faire des études pour pas forcément trouver ma place facilement derrière. Et le métier que j'exerce aujourd'hui, à l'époque, je le connaissais pas. Donc après ma licence de psychologie, j'ai bifurqué, je me suis tournée vers la gestion des ressources humaines. Donc j'ai intégré une école de gestion où j'ai appris et je me suis formée à la gestion des ressources humaines et j'ai exercé ce métier pendant 8 ans en région parisienne et surtout sur les axes formation, recrutement et ce qu'on appelle développement des compétences. C'est un métier passionnant mais qui a fini malgré tout par me frustrer puisque j'étais plus tournée vers la direction que vers les salariés, et je ne nourrissais pas ce besoin que j'avais moi d'accompagner et d'aider les gens dans leur vie professionnelle. Il se trouve que j'ai quitté la région parisienne pour arriver en Dordogne et que j'ai donc profité de ce changement pour faire un changement d'orientation et me tourner vers le champ de l'insertion et de l'orientation. Et c'est donc comme ça que je suis arrivée au métier que je fais aujourd'hui.
Pour arriver là, avec ce que vous avez fait auparavant, vous avez été directement en contact avec le monde de l'entreprise quand même. Il a fallu que vous appreniez ce que c'était qu'une entreprise, comment ça fonctionnait, quels étaient les problèmes qu'on y rencontrait, etc. Est-ce qu'il y a des structures qui réunissent les gens qui veulent faire ce métier? Est-ce qu'il y a une filière particulière?
Alors, qui veulent faire ce métier, il y a plusieurs formes pour l'exercer. Alors si on parle de partenaires avec qui je peux travailler, comme Pôle emploi ou les missions locales ou Cap emploi, qui accompagnent les personnes qui ont une reconnaissance travailleur handicapé, ce sont des conseillers d'orientation, puisqu'ils accompagnent les gens à l'emploi. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans un centre de bilan de compétences. Donc c'est quand même, ça a été mon cœur de métier pendant très longtemps. Il y a aussi ce qu'on appelle les cabinets d'outplacement, qui sont des cabinets qui accompagnent des entreprises qui vont avoir à malheureusement se séparer de certains de leurs salariés, mais qui veulent leur donner la possibilité d'anticiper. Donc il y a plusieurs structures en fait, hein, qui font de l'accompagnement. Moi aujourd'hui, je quitte le monde salarial pour me mettre complètement à mon compte et pour continuer mon accompagnement dans un cadre un petit peu différent. Mais il y a plein de structures qui accompagnent les gens. Des organismes qui peuvent être des organismes de bilan, qui peuvent être des organismes de formation, qui peuvent être des organismes d'État. Voilà, il y a beaucoup de besoins, donc beaucoup de monde pour y répondre.
Alors vous avez décidé maintenant, vous êtes arrivé à une autre étape de votre carrière, vous avez décidé de travailler en freelance, c'est-à-dire que vous attendez maintenant la clientèle, vous attendez que des gens vous sollicitent en disant « voilà, moi j'ai un problème ». D'insertion professionnelle, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? C'est ça?
Alors oui, alors je vais continuer à faire le métier que je fais depuis 10 ans, mais au lieu d'être salarié, je vais être à mon compte et en partenariat avec une entreprise qui est déjà installée. Et alors au-delà du bilan de compétences, je vais aussi faire de l'accompagnement à la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Alors ça, c'est quelque chose que je fais depuis 10 ans, en tous les cas sur une dimension information et conseil. Là, je vais basculer plutôt sur l'accompagnement pour aider les gens jusqu'au bout de leur processus. La VAE, ça permet à des personnes qui ont développé des compétences dans le temps d'obtenir un diplôme en faisant reconnaître leurs acquis. Et je trouve que c'est une belle aventure, donc j'avais envie d'accompagner les gens dans cette démarche-là. Et je reviens aussi vers mon premier métier qui est donc les ressources humaines, mais plus là, dans une position de conseil auprès des entreprises. On est sur un territoire où il y a beaucoup de PME, voire de TPE, très petites entreprises, qui n'ont pas forcément matière à avoir une fonction RH, mais qui pour autant ont des besoins dans la gestion de leurs ressources humaines. Et donc voilà, j'avais envie de pouvoir continuer dans une dynamique d'accompagnement, toujours auprès des salariés, mais aussi pourquoi pas auprès des dirigeants, parce que je reste convaincue que si les dirigeants peuvent gérer leurs ressources humaines d'une manière humaine et optimisée, eux, ils y gagneront en rentabilité, et puis les salariés derrière, ils gagneront en qualité de vie dans l'entreprise. Voilà.
Alors ça veut dire que vous pouvez être sollicité par une entreprise régulièrement qui apprécie les services que vous pouvez lui rendre pour par exemple valider des recrutements.
Alors ça peut être effectivement pour valider ou même mettre en place un recrutement, ça peut être pour les aider éventuellement à revoir une organisation et à travailler sur les définitions de postes, ça peut être sur un questionnement. Alors aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec la crise, les DRH sont en première ligne pour réfléchir à de nouvelles organisations de travail, éventuellement à de nouvelles organisations de la gestion de leurs compétences en interne, parce que malheureusement, va peut-être y avoir besoin de revoir les choses. Et ça reste un métier, c'est pas toujours si simple. Ça peut être les accompagner dans la mise en place des entretiens professionnels, qui sont une obligation légale, ou les former. Voilà, toute question relative autour de la gestion des ressources humaines, ça peut être les informer aussi sur la VAE. Il y a des structures qui auraient intérêt et qui pourraient avoir intérêt, en tous les cas, à mettre en place la VAE dans leur entreprise. Alors, d'abord parce que c'est un outil de valorisation et de motivation des salariés, parce que quand on est dans un monde de certification, avoir des salariés qualifiés, c'est bien vu aussi. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là que je peux aborder et accompagner.
Vous avez quitté la région parisienne, vous arrivez dans une région, tout à l'heure vous parliez de la domination des PME dans notre département. C'est quand même un milieu qui, du point de vue professionnel et du point de vue des entreprises, est complètement différent que de la région parisienne. Vous avez trouvé suffisamment dans ce département qui est quand même qui reste à dominante un peu rurale, vous avez trouvé suffisamment de quoi vous occuper ?
Alors, jusque-là, j'ai été salariée. Effectivement, hein, ça a été, j'ai dû très vite me rendre compte qu'on n'était pas sur le même marché de l'emploi. J'étais moi-même demandeur d'emploi quand je suis arrivée en Dordogne. Et j'ai vite compris que ce n'est pas derrière mon ordinateur que je retrouverais du travail. Mais du coup, j'ai expérimenté la recherche d'emploi sur ce territoire. J'ai compris l'importance du réseau et du fait de rencontrer des gens et d'aller à la rencontre des gens. Et puis, à travers... à peu près 200 bilans de compétences que j'ai dû faire, eh ben, j'ai pu découvrir et les métiers et les entreprises du territoire, qui fait qu'aujourd'hui, je les connais bien. Après, je suis loin de tout connaître. Mais moi, j'ai toujours été intéressée par l'humain. Et même quand je me suis tournée vers la gestion des ressources humaines, ce qui m'intéressait, c'était une gestion à taille humaine. Alors, j'ai eu travaillé dans deux très grosses entreprises. C'est aussi sans doute pour ça que... et je trouve que pouvoir gérer les ressources humaines au plus près du terrain, au plus près des préoccupations des salariés et même des préoccupations de l'entreprise, c'est bien plus intéressant, de mon point de vue.
Quel est le profil des gens qui font appel à vous, ici, en Dordogne?
Alors, c'est très, très varié. Alors, en orientation scolaire, évidemment, c'est des jeunes. Hein. Le plus jeune que j'ai accompagné était en troisième, et j'ai accompagné des jeunes jusqu'en post-bac, 21-22 ans. Après, j'ai aussi bien travaillé avec des jeunes qui venaient des missions locales, donc 16 à 25 ans, sortis du système scolaire et en questionnement et ou en décrochage. Mais j'ai pu aussi bien accompagner une dame qui faisait des ménages depuis 25 ans chez des particuliers et qui s'est retrouvée avec des gros problèmes de dos et avec l'obligation de se réorienter qu'une directrice financière d'une grosse structure. C'est vraiment tout profil. Alors, si je dois faire une généralité, on va dire que la moyenne d'âge des gens qui viennent en bilan, c'est autour d'une quarantaine d'années. Alors, on parle de la crise de la quarantaine, je ne sais pas si c'est un lien. En tous les cas, après à peu près 20 ans d'expérience, il n'est pas rare que les gens s'interrogent quand les enfants commencent à être un petit peu plus grands et qu'on n'est plus simplement dans une préoccupation de dire bah, « il faut que j'ai un travail et que je m'occupe de mes enfants », mais que... Alors je parle des femmes en particulier parce que c'est quand même 90% du public sur les bilans de compétences, mais qu'on commence à se dire bah, « qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire finalement moi aujourd'hui ?» voilà, on voit beaucoup de ces profils-là arriver en bilan de compétences. Donc voilà, c'est tout profil.
Oui. Alors, moi, vous avez pratiquement, enfin, en partie répondu à une des questions qui me venait, à savoir, est-ce que la majorité de vos clients, on va dire, est féminine ? Il semble que oui, au moins pour certains. Mais dans le domaine scolaire, comment les gens font-ils appel à vous ? Est-ce que ce sont les établissements ? Ça se fait au niveau des établissements ? Ça se fait au niveau des parents ? Au niveau des associations de parents d'élèves ? Comment ça marche ?
Alors, sur la question de l'orientation scolaire, donc moi, c'est un thème que j'ai abordé il y a à peu près 3 ans, parce que je me suis rendu compte, et ça répond un petit peu aussi à une question que vous avez posée tout à l'heure, que dans les gens qui viennent en bilan de compétences, alors il faut savoir, on vient rarement en bilan parce que tout va bien. On va dire que 98% des gens qui viennent en bilan de compétences, c'est parce qu'à un moment donné, ils sont plus bien là où ils sont, pour des raisons très diverses, avec un degré de mal-être qui est très variable. Ça peut être d'une... Je commence à saturer à un burn-out, hein, j'en ai eu beaucoup, et même des gens en arrêt. Quand on commence à questionner et à voir ce qui se passe dans le parcours, très souvent, on revient à la question de l'orientation. On a beaucoup de gens qui ont fait des choix de carrière ou d'orientation professionnelle, pas toujours pour les bonnes raisons, et parce que, au moment du questionnement de l'orientation, ils n'ont pas forcément été accompagnés ou aidés, dans tous les cas, de la bonne manière. Et donc, je me suis... Et les jeunes en mission locale, qui sont eux, alors beaucoup plus jeunes, mais en décrochage, c'est souvent aussi une problématique qui revient. Donc ça m'a paru moins évident à un moment donné de se pencher sur la question de l'orientation scolaire. Donc les jeunes, alors aujourd'hui c'est le bouche à oreille. Les établissements scolaires, ça fait partie de mes projets sur le mois de septembre, puisque moi j'arrête mon activité salariée à partir de septembre. Alors je suis à mon compte depuis 3 ans, mais là je vais m'y consacrer pleinement et je voudrais m'orienter et m'adresser aux établissements scolaires. Mais jusque-là, c'est le bouche à oreille qui a fonctionné essentiellement. D'accord. Et donc c'est souvent effectivement les parents qui font appel à moi.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples particuliers de personnes que vous avez été amené à conseiller, qu'elles soient orientées vers vous par n'importe quel canal, soit à leur initiative personnelle, soit par leur entreprise, et qui ont évolué favorablement? Est-ce que vous avez eu des succès flagrants, ou bien est-ce que vous avez eu des échecs patents qui vous ont amené? Alors, il y a aussi une autre question que je voudrais vous poser, bien entendu, c'est comment, alors j'entends bien que votre travail, votre expérience est cumulative, et donc que vous apprenez tous les jours des choses nouvelles sur le fonctionnement des entreprises et le déroulement des carrières. Comment est-ce que vous documentez, et comment est-ce que finalement vous tenez au courant de l'évolution du monde du travail?
Alors, pour la première partie de la question, alors réussite ou échec, c'est un métier qui est très difficile à évaluer, en fait. C'est très subjectif, puisque nous, on accompagne les gens moi, je les accompagne sur un temps donné, l'objectif étant d'élaborer avec eux un projet, avec un plan d'action pour que ce projet puisse se mettre en œuvre. Maintenant, dans l'accompagnement à la mise en œuvre de ce projet, aujourd'hui, il n'y a pas forcément de dispositif qui le permet. Donc j'ai des retours quand on veut bien m'en donner, malheureusement pas assez souvent. Alors moi je considère que c'est pas forcément ma réussite, c'est plutôt la leur, parce que moi je dis souvent aux gens, je suis pas là pour vous trouver des solutions, mais pour vous aider à en trouver. Mon idée c'est pas d'élaborer un projet, mais bien de les aider eux à élaborer le projet de manière à ce que ça leur appartienne et de manière à ce qu'ils puissent s'en emparer et le mettre en œuvre derrière. Si moi je devais leur proposer un projet tout ficelé, aussi pertinent soit-il, je sais qu'ils ne le mettront pas en œuvre derrière parce que ça ne leur appartiendra pas. Donc oui, j'ai eu des retours de gens qui, suite au bilan, ont mis en place des choses et ont parfois complètement changé d'orientation. Alors j'en ai un qui me vient à l'esprit, qui est un monsieur qui travaillait dans les transports et qui était chef d'équipe dans les transports en commun, qui adorait le contact avec les gens et qui adorait conduire, qui avait monté dans son entreprise, mais qui s'y retrouvait plus, notamment parce que la gestion d'équipe et la gestion des hommes ne lui convenait plus, et Dieu sait que c'est pas si simple que ça. Donc il est arrivé en bilan en se demandant un petit peu comment il pouvait évoluer, en sachant qu'il voulait plus faire ce qu'il faisait à ce moment-là. Il s'est avéré qu'à l'issue, le métier de taxi répondait à pas mal de ses attentes, puisque un métier de service, un métier au contact des gens, un métier où on conduit. Donc il s'est renseigné sur les formations et sur comment accéder à ce métier-là. Il a suivi la formation, il a intégré donc une société de taxi dans un premier temps comme salarié. Et j'ai eu de ses nouvelles juste avant le confinement, puisque je l'ai sollicité pour une enquête métier pour une jeune fille que j'accompagnais en orientation scolaire et qui s'intéressait également à ce métier-là. Et donc, il m'a appris qu'il était aujourd'hui à son propre compte et qu'il avait 5 salariés. Voilà. Alors, bon, la gestion d'équipe, pour le coup, c'est un petit peu raté. Mais voilà, ce sont des gens qui sont indépendants dans son équipe. Donc, ça fait partie. Alors, c'est sa réussite, c'est pas la mienne. Mais pour autant, ça fait toujours plaisir de se dire qu'on a pu contribuer à sa petite hauteur, à ce que quelqu'un retrouve un épanouissement professionnel.
D'accord.
Alors, sur les métiers, j'ai envie de dire, je les découvre au fur et à mesure que je rencontre les personnes, qu'elles me parlent de leur métier. Et alors après, je suis sur certains réseaux, j'ai des informations qui me viennent au fur et à mesure parce qu'on a des partenaires qui nous donnent aussi des informations. Donc, je peux aller chercher quand j'ai besoin. Alors, je fonctionne aussi beaucoup comme ça. Je vais chercher les informations au fur et à mesure que j'en ai besoin. D'abord parce que j'ai pas une grosse mémoire, il faut être honnête. Donc je vais chercher les informations quand j'en ai besoin. Et puis je suis sur des réseaux et j'ai des abonnements sur certaines pages. Je pense à France Compétences par exemple, ou Pôle Emploi qui vous donne régulièrement les informations sur les évolutions réglementaires. Et puis bien sûr, je regarde et j'écoute la presse, ce qui me permet aussi d'avoir ces informations-là.
Mais alors, pour vos relations avec un organisme comme Pôle Emploi, ça veut dire que vous êtes agréé par Pôle emploi en tant que professionnel dans votre secteur. Enfin, vous avez des relations qui sont des relations presque statutaires avec Pôle emploi.
Alors, en tant que salarié, donc pour un centre de bilan, c'était effectivement le cas, puisque dans ce monde-là, en fait, quand Pôle emploi Donc Pôle emploi accompagne des demandeurs d'emploi et puis sous-traite aussi l'accompagnement des demandeurs d'emploi sur ce qu'on appelle des prestations qui peuvent être de l'accompagnement individuel, mais de l'accompagnement collectif, de la mise en place de projets, des animations d'ateliers. Donc ça marche par appel d'offres et les structures répondent aux appels d'offres. Donc j'ai eu à travailler avec Pôle emploi, ma structure ayant été donc partenaire de Pôle emploi en ayant répondu à des appels d'offres, donc sur des prestations qui sont cadrées par, voilà, par un cahier des charges. Sur du bilan de compétences, Pôle emploi finance effectivement des bilans de compétences. Et dans ces cas-là, il faut effectivement être référencé chez Pôle emploi. Alors moi, aujourd'hui, dans mon activité personnelle, je ne le suis pas, mais l'entreprise avec qui je suis partenaire l'est. Donc voilà. Et aujourd'hui, avec le CPF, le compte personnel de formation, un demandeur d'emploi peut tout à fait, lui, décider de financer un bilan de compétences sans demander l'accord ou l'autorisation à son conseiller Pôle emploi.
Et alors, dans votre futur exercice du métier, c'est-à-dire à titre individuel, vous pouvez être agréé par Pôle emploi de la même façon ?
Alors oui, il faut alors avoir un certain nombre de certifications et ensuite demander effectivement à être référencé sur leur site et à intégrer leur catalogue.
D'accord. Voilà. Je voudrais vous demander maintenant un petit peu, enfin me poser des questions sur votre vie personnelle. Vous êtes quelqu'un qui habitait la commune de Coulouniers-Chamiers. Vous êtes engagé dans une démarche citoyenne. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce qui vous amène à vous engager comme ça ? Est-ce que c'est le souci de participer à la vie de la commune ? Est-ce que c'est le souci de vous rapprocher des gens avec lesquels vous avez, par définition, besoin de communiquer ? Ou bien est-ce que vraiment vous considérez qu'il y a, la société, même à l'échelle d'une commune comme la nôtre, est confrontée à des problèmes qui méritent d'être résolus le plus vite possible et qui sont graves ?
Alors ça, c'est une certitude. Alors oui, effectivement, je suis engagée auprès d'une association. C'est vrai que moi, la commune, j'y habite depuis 2011. Je dois avouer que je ne la connaissais pas bien, que quand cette opportunité s'est présentée, je me suis dit que c'était une occasion de mieux la connaître. Je suis d'une nature assez curieuse. Et effectivement, oui, j'étais engagée, et pour rien cacher, engagée aussi sur les municipales, sur une des listes, avec comme projet de pouvoir contribuer. Alors, à mon niveau, mais sur un domaine que je connais, qui était l'emploi, l'orientation et l'insertion. Coulouniers-Chamiers est une commune qui a un taux de chômage très important, et donc il y avait beaucoup de choses à faire, et ça m'intéressait. Alors, l'engagement politique, très honnêtement, non, c'est pas forcément ça qui m'a animée, mais plutôt de pouvoir mettre les compétences que je peux avoir au service de la commune dans laquelle je vis. Je trouvais ça plutôt naturel et intéressant. Et puis, je dois être honnête aussi, j'ai un papa qui a toujours œuvré pour la commune dans laquelle j'ai grandi, et je pense que j'ai grandi avec ces valeurs-là aussi.
Plus généralement, quel est le regard que vous portez, justement, à travers votre métier sur l'évolution de notre société? Alors bon, évidemment, on vit une situation quand même tout à fait particulière depuis plusieurs mois, mais si on se place dans la perspective de la transition écologique dont tout le monde maintenant reconnaît qu'elle est indispensable et urgente, comment voyez-vous l'avenir de vos activités?
Ben écoutez, effectivement, alors pour répondre à votre question, en période de post-confinement, là où on annonce une explosion du chômage dans le département, eh ben moi je quitte mon emploi. Donc on pourrait se dire que je ne suis pas forcément très raisonnable, mais si je le fais, c'est parce que je suis confiante. Au contraire, alors je pense justement que dans cette période-là, des gens comme moi vont avoir du travail. D'abord parce qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de gens qui vont être en recherche d'emploi. Parce que comme je le disais tout à l'heure, les entreprises vont devoir repenser autrement leur organisation. Et je pense notamment à la gestion de leurs ressources humaines. Et que potentiellement, ils vont peut-être avoir besoin d'aide et en tous les cas de conseils. Et donc oui, je suis confiante en tous les cas sur le fait que je vais pouvoir aider. Et je ne suis pas inquiète par rapport à mon activité. Après, l'avenir dira si j'avais raison ou pas.
Les métiers comme le vôtre, qui sont encore rares, mal connus, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous faire parler du vôtre, et je vous en remercie. Est-ce que ça, c'est le reflet du fait qu'on vit dans des sociétés de plus en plus complexes et puis que les gens sont désarmés et qui sentent qu'il faut qu'ils recourent à des personnes qui soient capables de les conseiller, alors que peut-être qu'il y a 50 ans, ça s'avérait moins nécessaire, les choses étaient plus plus carré, plus limpide, plus peut-être moins complexe.
Alors, c'est une grosse question. Je prétends pas avoir les compétences pour une analyse très fine, mais en tous les cas, ce que je peux dire, c'est que à travers les bilans de compétences, on observe, et ça que tout corps de métier, qu'il y a une souffrance au travail qui est de plus en plus importante. Beaucoup pour des questions de rentabilité. On entend souvent que les gens ont perdu l'humain, ne trouvent plus de sens à ce qu'ils font. Et j'ai accompagné beaucoup de gens du secteur médical et je peux en parler. C'est notamment un des secteurs où ça paraît complètement fou, mais malgré tout, on a beau s'occuper des gens, on a des soignants qui sont en souffrance. Et du coup, des gens qui se disent le métier que je fais aujourd'hui ne répond plus à mes aspirations et à mes valeurs. Je ne m'y retrouve pas et j'ai besoin de faire autrement. Et qui, du coup, des fois, renoncent même à des vocations. Je pense à une jeune infirmière. Je pense qu'on est dans une société, effectivement, où la rentabilité a pris le pas. Et où on a peut-être un peu perdu de vue que ce qui fait qu'une entreprise est rentable, c'est qu'elle a des ressources qui travaillent dedans, et que ces ressources-là, alors ça c'est un point de vue très personnel, et là c'est plutôt un point de vue RH, mieux on les recrute, mieux on les intègre, mieux on les forme, et mieux on les accompagne, et mieux elles seront rentables. Et si on arrivait à rentrer dans cette dynamique-là de gestion des ressources humaines, tout le monde pourrait, à mon avis, être gagnant. Alors c'est peut-être utopique, mais en tous les cas, moi c'est à ça que j'ai envie de croire.
Écoutez, vous me désespérez là, en me disant ça, parce que moi, quand j'étais jeune, il y a 50 ans, on parlait des cadences infernales, et puis on disait que les ouvriers étaient maltraités aussi, et les employés étaient maltraités, on leur infligeait des rythmes de travail impossibles. Donc rien n'a changé.
Si, ce qui a, je pense, changé, c'est que les gens se posent peut-être plus de questions, ou en tous les cas... Alors c'est vrai que les carrières qu'on a connues en plus avant, on rentrait dans une entreprise, on y faisait toute sa carrière, ça n'existe plus. Peut-être que les gens se posent plus de questions, peut-être s'autorisent plus aussi à se dire « ça me plaît pas », peut-être que le seul fait d'avoir un travail et un revenu n'est plus un critère suffisant pour rester là où on est. Peut-être, c'est des hypothèses que j'émets, et qui fait qu'on s'autorise aussi à se dire je travaille pour gagner ma vie, mais j'ai aussi envie de m'épanouir dans ce que je fais. Alors non pas qu'on ne s'épanouissait pas avant, mais peut-être peut-être les gens acceptent moins aujourd'hui qu'on les exploite, ou s'ils doivent être exploités, l'acceptent moins. Alors est-ce que c'est une évolution de la société? C'est possible, mais en tous les cas, on observe, les bilans de compétences n'existaient pas il y a 50 ans. Oui. Ils n'auraient peut-être pas eu de clients d'ailleurs à l'époque.
Enfin, quand même, on vit une époque tragique. Les gens sont confrontés aux difficultés que vous évoquez et puis ils ne vont pas voter.
Je pense que les gens ont le sentiment que qu'ils votent ou qu'ils ne votent pas, ça ne change pas grand-chose. Là encore, c'est un sentiment et c'est mon avis très personnel. Et que leur papier dans l'urne ne va pas changer la face des choses parce que de toute façon, c'est là-haut que ça se décide. Et que quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent, ça ne changera rien. Et je pense que du coup, ils s'en désintéressent. Peut-être que si effectivement on arrivait à leur redonner un petit peu plus d'initiative et d'implication, et que le pouvoir était un petit peu plus partagé, on observerait un réengagement des gens, peut-être. Ce serait bien.
Agnès, le temps a filé trop vite. Vous êtes mère de famille,
oui.
Vous avez un travail prenant. Est-ce que vous avez le temps de penser à autre chose que votre travail? Est-ce que vous avez des passions que vous pouvez quand même assouvir?
Alors, je suis maman de 3 enfants, ça prend du temps, effectivement, mais ça, c'est du temps agréable. Oui, j'ai appris à prendre du temps pour moi, parce que quand on fait un travail où j'écoute des gens, parfois 8 heures par jour, donc je fais du sport, parce que c'est quelque chose qui me fait du bien, mais j'ai aussi appris à ne rien faire. Et je conseille aux gens d'apprendre à ne rien faire et à s'offrir des bulles simplement avec soi, prendre le temps de lire ou simplement d'écouter de la musique, voir ses amis, rien de très d'extraordinaire, mais en tous les cas, des temps qui permettent de se ressourcer.
Merci beaucoup Agnès.
Merci à vous.
Merci de tout ce que vous nous avez appris sur votre beau métier, et puis bon courage pour l'avenir.
Je vous remercie, et puis écoutez, on verra, mais je suis plutôt confiante.
De l'altitude, partageons nos idées,
nos valeurs.
Notre temps, l'homme est un solitaire.
L'homme est un solitaire.
Qui a besoin des autres?
Qui a besoin des autres?
C'était Tranche de vie.
Et plus il est ouvert,
une émission proposée par Jean-François.
Et plus il devient grand.
Découvrez ma culture.
Découvrez ma culture.
J'apprendrai la vôtre. être.
Je pense donc je suis.
Et tu es donc, j'apprends.